VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui. Abdourahmane Diap pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mercredi 22 février 2017 au sommaire. Le gouvernement congolais va finalement enquêter sur les crimes présumés révélés dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Reprise des cours en Guinée après des semaines de grève et des manifestations meurtrières.
Aujourd'hui, je suis très fier de reprendre les cours puisque nous avons perdu déjà 2 semaines de congé sans rien faire.
La justice sud-africaine désavoue le gouvernement qui souhaite quitter la CPI. Le nouveau président somalien avertit Al-Shabaab qu'il ne pourra pas vaincre face aux 12 millions de Somaliens. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Les autorités de Kinshasa ont fait un revirement ce mercredi avec l'annonce d'une enquête suite à la diffusion d'une vidéo mettant en cause des soldats dans un massacre. Le gouvernement avait jusque-là résisté aux appels de Paris, Washington et les Nations Unies. Éric Manirakiza.
À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo atroce, Kinshasa affirme avoir envoyé une commission conduite par des hauts magistrats militaires. Il doit vérifier ces allégations de violation grave des droits de l'homme dans le village de Mwanza Lomba, au Kasaï oriental. Selon le gouvernement, cette commission d'enquête a déjà procédé à un certain nombre d'interpellations et a lancé un appel à témoins pour recueillir toute information supplémentaire. Samedi, une vidéo montrant des hommes en uniforme et tirés sur des villageois non armés était devenue virale sur le net. Le gouvernement avait qualifié ces images de montage grossier, puis a réitéré lundi son refus catégorique d'ouvrir une enquête. Les États-Unis, la France, les Nations Unies et l'Union européenne exigeaient que la lumière soit faite sur ces crimes présumés que semble révéler cette vidéo. Situé dans le centre du pays, le Kasaï est le théâtre depuis septembre 2016 d'une rébellion suite à la mort pendant une opération militaire de Kamuina Nsapu, un chef coutumier. Les violences ont fait au moins 200 morts.
Toujours en République démocratique du Congo, l'ONU estime que le mouvement du M23 représente une menace actuelle après des rumeurs de retour dans le Nord Kivu d'ex-combattants de cette rébellion qui a été défaite en 2013 par l'armée congolaise. Le général Bernard Cummins, chef adjoint des casques bleus de la mission de la MONUSCO, a déclaré que des missions de reconnaissance aérienne ont permis de confirmer un certain nombre de choses, a déclaré donc le général français, sans donner plus de détails. Nous y reviendrons dans la partie magazine de ce journal. La mission des Nations Unies en Centrafrique, elle a annoncé avoir obtenu le départ de la ville de Bambari, d'un chef de guerre considéré comme étant l'un des responsables des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka dans le centre du pays. Ali Ndaras vient de quitter Bambari après avoir signé une déclaration à la suite des discussions menées par la MINUSCA, a précisé le porte-parole de la mission onusienne Vladimir Montero lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Le gouvernement sud-africain vient d'essuyer un sérieux revers dans sa volonté de quitter la Cour pénale internationale. Un tribunal a rejeté les arguments du gouvernement au motif que le Parlement n'avait pas été consulté. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
La haute cour de Pretoria, saisie par l'opposition, s'est prononcée. La lettre de retrait de la CPI, envoyée par les autorités sud-africaines en octobre dernier à l'ONU, est inconstitutionnelle et invalide. Pour être légale, cette lettre aurait dû être précédée d'une approbation du Parlement. En conséquence, la Haute Cour a ordonné au gouvernement de révoquer sur le champ cette notice de retrait. En octobre 2016, le ministre sud-africain de la Justice, Mike Masuta, avait accusé la CPI de préférer de toute évidence viser des dirigeants en Afrique. Après une vive polémique déclenchée par le refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, malgré un mandat d'arrêt de la CPI, l'Afrique du Sud a décidé le 21 octobre dernier de se retirer de la Cour pénale internationale. La CPI s'est aussi attiré les foudres de l'Union africaine, qu'il accuse de s'acharner sur les leaders africains.
Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a été investi à l'aéroport de Mogadiscio sous haute sécurité pour éviter une attaque des Shabab qui ont menacé de lui mener une guerre sans merci. Il les a aussi invités à déposer les armes. Nathalie Barche.
Le nouveau président somalien s'est attaché à tempérer les attentes de ses concitoyens, prévenant que sa marge de manœuvre sera limitée face à l'ampleur des défis qui l'attendent, assurant toutefois qu'il ferait de son mieux au plan sécuritaire. « J'aimerais régler tous les problèmes lors des 4 prochaines années, mais ça va être difficile car tous ces problèmes ont été créés par 20 années de conflits et de sécheresse », a déclaré Mohamed Abdoulaye Mohamed, qui a aussi invité les militants Chebab a déposé les armes. Si vous refusez de vous rendre, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas tenir devant 12 millions de Somaliens unis. Vous avez tué de nombreux Somaliens innocents et détruit leurs richesses. Vous devez cesser de faire le mal. Je vous demande de venir participer au développement de votre pays, a déclaré M. Abdoulaye en présence des présidents djiboutiens Ismaël Omar Guelleh et kényan Uhuru Kenyatta.
En Guinée, les écoles ont rouvert timidement ce mercredi après 3 semaines de fermeture dues à une grève des enseignants du public et de manifestations qui ont fait 7 morts. Les syndicats d'enseignants réclamaient aussi une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Un accord a été trouvé lundi entre l'intersyndicale et le gouvernement. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce journal avec le reportage de Zakaria Camara. Un nouveau chiffre effarant sur l'insécurité alimentaire en Afrique. Plus de 7 millions de personnes sont menacées de famine dans le nord-est du Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Selon les Nations Unies, c'est le plus grand groupe de personnes affamées dans le monde. Jacques Aristide.
La conférence internationale des donateurs, qui doit se tenir ce vendredi à Oslo, vise à recueillir quelque 1,5 milliard de dollars pour faire face aux besoins humanitaires de la région cette année. L'insécurité alimentaire demeure le plus gros problème dans cette partie de l'Afrique, précise le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel. Les habitants sont au bord de la famine et ont à peine un repas par jour, ajoute Toby Lanz. Selon les Nations Unies, 10,7 millions de personnes, soit 2 habitants sur 3 de la région, ont besoin d'une aide humanitaire, dont 500 000 d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent des formes les plus graves de malnutrition. La région est en proie depuis 7 ans à une insurrection des islamistes nigérians de Boko Haram qui ont tué dans les 15 000 personnes et provoqué l'exode de plus de 2 millions d'habitants.
Le pape François a appelé à l'acheminement de l'aide alimentaire aux zones du Soudan du Sud où la population est menacée par la famine. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a promis hier qu'un accès sans restriction serait accordé aux humanitaires dont les efforts ont été entravés depuis plus de 3 ans par la guerre. Juba a déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Selon les Nations Unies, près de 5 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'aide alimentaire d'urgence. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a salué l'implication des 3 pays voisins de la Libye pour trouver une solution politique à la crise que traverse ce pays depuis 6 ans. S'exprimant devant la presse à Tunis, M. Kobler s'est félicité de la récente activité diplomatique déployée par la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Ces 3 pays sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec la Libye, mais restent opposés à toute intervention militaire étrangère.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les délégations du gouvernement syrien et de l'opposition sont arrivées à Genève où doit se tenir une nouvelle série de discussions sous l'égide des Nations Unies pour tenter de mettre un terme à 6 années de conflits meurtriers. Contrairement aux 3 précédentes sessions, l'émissaire de l'ONU Stéphane de Mistura espère cette fois que les 2 camps accepteront de se parler directement autour d'une même table. Les autorités turques ont décidé de lever l'interdiction du port du foulard islamique pour les femmes qui servent comme officiers ou sous-officiers dans l'armée. L'armée, qui s'est longtemps présentée comme la gardienne de la laïcité en Turquie, était la dernière institution où le port du foulard islamique était interdit. Et puis les femmes pourront désormais, si elles le souhaitent, porter sous leur coiffe militaire un foulard de la même couleur que l'uniforme, sans motif, selon le porte-parole du gouvernement. La Ligue arabe dénonce ce qu'elle appelle l'absence de justice et le racisme d'Israël au lendemain de la condamnation à 18 mois de prison d'un soldat israélien pour avoir achevé un assaillant palestinien. Le soldat Elor Azaria, qui a aussi la nationalité française, a été condamné hier pour homicide par un tribunal militaire israélien. Il avait été filmé en mars 2016 par un militant pro-palestinien alors qu'il tirait une balle dans la tête d'Abdel Fattah al-Sharif à Hébron, en Cisjordanie occupée. Le président yéménite Mansour Hadi a évoqué une aide saoudienne de 10 milliards de dollars pour la reconstruction des provinces libérées. Le président yéménite a notamment insisté sur la réhabilitation des infrastructures ainsi que sur les services de santé et l'éducation. Une bonne partie du territoire yéménite est toujours sous le contrôle des rebelles houthis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Affaire des entreprises d'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Les souscripteurs des entreprises d'agrobusiness ont été induits en erreur et ont participé à une activité dont ils ignorent les règles. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre de l'Économie et des Finances qui a invité les souscripteurs à s'inscrire dans les différentes agences du Trésor, munis de la preuve de leur souscription en vue du remboursement du capital investi. Quelque 13 000 souscripteurs ont ainsi été enregistrés en 2 jours, selon le Trésor public. Décentralisation de la Banque africaine de développement, Abidjan abritera les bureaux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est ce qu'annonce le président Akinwumi Adesina, qui prévoyait en décembre le départ de 800 à 900 personnes, soit environ 40% des effectifs de la BAD, vers Nairobi, Johannesburg et Tunis. Ce chantier de décentralisation avait suscité la colère des autorités ivoiriennes, estimant avoir tout fait pour obtenir le retour du siège de la BAD transféré à Tunis en 2003. Budget d'Afrique du Sud, le gouvernement annonce la hausse d'impôts. Un nouvel impôt de 45% sera notamment prélevé sur les plus hauts revenus et les taxes sur le tabac, l'alcool et l'essence. L'objectif est d'obtenir 2 milliards d'euros supplémentaires de recettes. D'après l'AFP, les autorités prônent aussi une accélération de la transformation de l'économie du pays pour réduire les inégalités raciales.
Nicolas Pinot, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Alors on démarre cette page des sports avec la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
La Juventus de Turin, finaliste de l'édition 2015, se lance dans la course en position de favori ce soir sur la pelouse de Porto. La Juve reste sur 5 titres de champion d'Italie d'affilée et cette saison encore, elle dispose d'une large avance en Serie A. Dans l'autre huitième de finale aller ce soir, le FC Séville reçoit Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. L'équipe de Claudio Ranieri est en très grande difficulté cette année en Première Ligue, 17e à la limite de la zone de la relégation.
Hier soir, match fou à l'Etihad Stadium.
Ah oui, Manchester City qui l'a emporté 5 buts à 3 devant Monaco, qui pourra nourrir beaucoup de regrets après avoir mené 2 fois au score. Sterling sonne le début des hostilités à la 26e minute pour les Anglais, mais 4 minutes plus tard, c'est Falcao qui égalise d'une tête plongeante. Mbappé double la mise avant la mi-temps pour les Monégasques qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance, 2 buts à 1. En seconde mi-temps, Monaco qui rate un pénalty, c'est le tournant du match. Puis Manchester City parvient à égaliser par Agüero. Puis, sur un coup de génie, Falcao encore lui redonne l'avantage. 3 buts à 2 à Monaco en lobant Caballero. Enfin, sur 2 corners, Manchester City parvient à inscrire 2 buts et c'est Sané qui inscrit le 5e but des Citizens. Score final 5 buts à 3.
Autre match du soir, l'Atlético très réaliste face à Leverkusen.
L'Atlético Madrid a quasiment assuré sa qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions en s'imposant 4 buts à 2 sur la pelouse de Leverkusen sous l'impulsion du redoutable duo français Gamero, Griezmann. Les Madrilènes plus précis et plus incisifs ont fait preuve d'une efficacité chirurgicale, mais quand même les Allemands qui sont revenus 2 fois au score pour peut-être préserver un mince espoir pour le match retour.
Le choc en Espagne ce soir, Real-Valence.
Oui, le Real Madrid à nouveau au complet se déplace à Valence pour disputer le premier de ses 2 matchs en retard en championnat d'Espagne. Leader avec 52 points, le Real ne compte qu'un point d'avance sur le FC Barcelone, deuxième à 51 points, et 3 points sur le FC Séville, troisième à 49 points. Avant ce match de la 16e journée, il avait été décalé en décembre dernier pour permettre au club meringué de disputer et de remporter le mondial des clubs.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
La reprise des matchs, c'est jeudi, après le week-end du All-Star Game. Mais, dernier développement, on apprend que la vedette légendaire des Lakers de Los Angeles, Magic Johnson, est le nouveau patron de l'équipe. Il a été nommé hier président des opérations.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours en compagnie d'Abdourahmane Dia pour cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les rebelles du M23 représentent une menace actuelle en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé l'ONU après des rumeurs de retour dans le Nord Kivu d'ex-combattants de cette rébellion qui a été défaite en 2013 par l'armée congolaise. Félix Prosper Bass est le porte-parole de la MONUSCO. Il a été joint à Kinshasa par Tatiana Mosso.
Nous avons eu des indices probants avec des photos aériennes qui, de manière très globale, nous confirmaient la présence du M23. Évidemment, nous n'entrons pas dans des spéculations pour le moment pour déterminer avec exactitude le volume de force de M23 présent en RDC, mais nous savons que le M23 est bel et bien en RDC.
Alors justement, quelle est la conséquence de cette nouvelle menace pour la région ?
Les conséquences sont multiformes. D'abord, premièrement, vous savez très bien, si vous aviez suivi de 2012 à 2013 tout ce que le M23 en tant que groupe rebelle armé avait eu comme impact sur les populations civiles, ça veut dire un impact tout à fait négatif, particulroutdans le territoire de Rutshuru où le M23 avait carrément mis en place une administration parallèle avec une police parallèle, un administrateur parallèle, et nous avons tous vu quelles sont les exactions qui ont été commises par les éléments du M23 pendant cette période est bien précise. Alors, bien sûr que c'est une menace pour les populations civiles, bien sûr que c'est une menace pour la stabilité dans cette région, et même je peux dire que l'impact de cette menace pourrait aussi toucher les autres pays riverains de la République démocratique du Congo. Donc le M23, revenu en RDC comme mouvement armé, est une menace sérieuse, une menace que nous prenons très au sérieux, en tout cas avec nos partenaires congolais, avec qui nous sommes en contact permanent.
Et justement, quelles sont les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui par l'ONU et ses partenaires ?
Pour des raisons de sécurité opérationnelle, on ne peut pas mettre sur la place publique toutes les stratégies, les mécanismes qui ont déjà été mis en place, visités, revisités pour prendre en compte cette menace. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes non seulement déterminés, engagés à remplir notre mandat tel que donné par la résolution 2277 avec nos amis et partenaires congolais, et que tout groupe armé qui présenterait une menace pour la sécurité de ce pays et pour une menace sur les populations devra être traité comme elle. Et je pense que le M23 a encore en mémoire les actions qui ont été prises contre lui lorsqu'il fallait prendre des décisions et qu'il fallait naturellement le neutraliser. Et c'est ce que nous avons fait grâce à la vaillance des soldats congolais, grâce au soutien de la MONUSCO, mais aussi grâce au soutien des populations locales congolaises.
C'était Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Cameroun, suite de la tournée nationale du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 remportée par l'équipe nationale ce mois-ci à Libreville au Gabon, la caravane est arrivée ce mercredi à Bamenda, berceau de la contestation de la minorité anglophone qui s'estime marginalisée. Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé de nombreuses arrestations en rapport avec cette crise. Timothée Donangmaï a joint à Bamenda notre confrère Pierrot Anoufak.
Il y avait un mot de grève qui avait été lancé par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui appelaient, n'est-ce pas, la population à boycotter, n'est-ce pas, cette célébration de la Coupe d'Afrique. Avec pour les raisons suivantes, c'est-à-dire Bamenda n'a pas de stade de football, Bamenda n'a pas de route, Bamenda, les élèves ne vont pas à l'école, Bamenda, les enseignants sont arrêtés. Bon, il y a plusieurs problèmes qu'ils ont énumérés. Alors, ce mot de grève a été respecté. Et alors, ce matin, aucun véhicule n'était en circulation, aucun moto-taxi n'était en circulation, les marchés fermés, toutes les boutiques quasiment fermées.
Le trophée est tout de même arrivé à Bamenda. Dans quelles conditions ?
Évidemment, le trophée est bel et bien arrivé à Bamenda et a vraiment fait le tour de la ville. Comme on a l'habitude de le dire, que le football ou encore que le sport est le ciment de l'unité. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que cela a confirmé aux Camerounais que le sport est vraiment le ciment de l'unité. Malgré le mot de grève qui a été lancé par des inconnus, qui a été respecté par la population, le trophée est arrivé à Bamenda et le chairman du Social Democratic Front, le chairman Nidjo Fundi du SDF, était bel et bien présent, n'est-ce pas, à la place des fêtes, son excellence le gouverneur à Dublin d'Afrique. Et le trophée a été célébré, n'est-ce pas, par tous ces milliers de personnes qui sont parties des différents quartiers, car la caravane qui transportait ce trophée, n'est-ce pas, excitait des populations à sortir de chez eux et à venir vivre cet événement, qui est un événement mémorable.
Alors, on sait que Bamenda, c'est le berceau de cette contestation des anglophones qui se disent marginalisés. Quelle est la situation de ce point de vue?
De ce côté, il faut dire qu'actuellement, les Bamenda ou encore les Bamendaens maintiennent toujours, n'est-ce pas, leur position sur le fait. Et là d'où je vous parle là, les parents sont déjà presque fatigués parce qu'ils sont fatigués du fait que le gouvernement n'arrive pas à trouver un consensus avec les enseignants anglophones, malgré le fait que le mot de grève avait été levé. Ça fait 3 mois aujourd'hui, aucun élève ne va à l'école.
C'était le journaliste Pierrot Anoufak, joint à Bamenda au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée, les élèves ont repris les cours ce mercredi après plus de 2 semaines de grève. Mais si la réouverture a été effective dans certaines écoles, dans d'autres, la reprise a été timide, comme l'a constaté notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Donc, comme vous le constatez, n'est-ce pas, sur cette loi, sur la coupe, nous avons, n'est-ce pas, l'axe.
Dans cette salle, la majorité des élèves a repris les cours. Des élèves candidats au baccalauréat.
Aujourd'hui, je suis très fière de reprendre les cours puisque nous avons perdu déjà 2 semaines de congé sans rien faire. Nous savons que nous sommes en retard dans toutes les matières. Donc aujourd'hui, pour la reprise des cours, vraiment nous sommes contentes.
Cet établissement privé est situé dans un quartier qui n'a pas connu des manifestations post-accord. En plus des élèves, les enseignants aussi étaient présents dans les salles.
D'abord que de part et d'autre, les parents avaient peur. Mais certes, ce que nous avons constaté, vraiment, à notre grande surprise, les enfants ont répondu. Et non pas que seulement les enfants, les administrateurs, les enseignants, tout le monde. Nous sommes tous présents et les activités pédagogiques ont repris. Voilà. Et surtout par rapport aux classes d'examen, là, nous avons pris des dispositions avec les directeurs de la sorte que le temps perdu soit rattrapé et le plus rapidement que possible.
De l'autre côté de la banlieue, le constat est tout autre. Au collège Saïfoulé Diallo de Bessia, plus de la moitié des élèves étaient absents. Christophe Abba enseigne les cours de physique.
On a programmé 1000 et quelques élèves, mais il n'y a eu que quelques dizaines dans les salles de classe. Nous avons 8 classes de 8e année et il n'y a eu que quelques dizaines. Ils n'ont pas répondu du tout.
Malgré l'accord trouvé, les manifestations se sont poursuivies mercredi dans certains quartiers de la capitale, des endroits où plusieurs écoles sont restées fermées. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, Donald Trump déclare la guerre à l'immigration clandestine. Sur plus de 11 millions de clandestins présents aux États-Unis, tous sont potentiellement expulsables. Quid de ces sans-papiers arrivés enfants sur le territoire? Cette procédure d'expulsion accélérée sans passer par la case justice crée un climat de peur. Qui est concerné exactement? La justice américaine peut-elle une nouvelle fois contrecarrer les plans de l'administration Trump? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump a adopté de nouvelles mesures sur l'immigration clandestine. Le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les sans-papiers qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. Une note qui inquiète dans les milliers d'immigrés africains. Chérubin Dorsey, l'agent à New York, Bakary Tandja, militant pour les droits des immigrants.
C'est un problème très très sérieux et d'ailleurs depuis 9h jusqu'à 11h du matin, j'étais à une réunion qui a regroupé les leaders de toutes les organisations qui luttent pour les droits des immigrants. Congresswoman Nina Vasquez, qui est très très active dans ce domaine, avait participé également à la réunion pour évaluer la situation et essayer de voir quelles sont les stratégies à adopter à court terme et long terme.
Donald Trump a promis de reformuler son décret sur l'immigration. En attendant, l'administration a adopté de nouvelles mesures pour appliquer des lois déjà existantes et c'est la panique parmi les immigrés.
Le mémo qui vient de tomber a aggravé la panique qui existait déjà au sein de la communauté. Et donc la panique est grandissante. Les mesures qui viennent d'être adoptées, bon, pratiquement, rend tous ceux qui sont dans la situation d'illégalité vulnérables. Et d'ailleurs, c'est tout le monde qui est affecté.
Et qu'en est-il de ceux dont le cas est en train d'être traité déjà par les services de l'immigration? Des gens qui sont en situation irrégulière, mais qui ont fait une demande, par exemple, et n'ont pas encore eu de réponse?
Bon, même au niveau de l'administration elle-même, ils ne sont pas consistants dans leurs décisions. Donc, ils sont en train de tâter la réponse par rapport aux mesures qu'ils sont en train de prendre. Donc, ce qui fait que même au cours de la réunion que nous avons eue aujourd'hui, c'était pas du tout facile de déterminer exactement ce qui va se passer. Ce que nous pouvons dire, la situation est réellement sérieuse et que nous sommes en train de travailler pour développer, en tout cas, des stratégies.
Comment la communauté peut-elle faire face à cette situation?
La première des choses, c'est d'éduquer les membres de notre communauté par rapport à leurs droits, même en tant qu'illégal, en tant que personne humaine vivant sur le territoire américain. Les gens, les personnes jouissent d'un certain nombre de droits qu'ils peuvent faire valoir. Également, là où s'adresser en cas de besoin pour demander de l'assistance. Ça, c'est très, très important. Et l'autre stratégie, c'est de s'organiser. Comme vous l'avez constaté, il y a une mobilisation au niveau national. Bon, ça également, nous avons besoin de continuer à nous organiser et à revendiquer nos droits.
C'était Bakary Tandja, militant pour les droits des immigrants.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Michel Joseph l'a réalisé. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.